Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Isabelle Conan pour les mots de la foi. Et pour cette émission des mots de la foi, eh bien, nous avons pensé que en période interélectorale, on a eu les présidentielles, on va avoir maintenant les législatives. C'était peut-être intéressant de relire avec vous, chers auditeurs, le texte du pape François, tous frères, et notamment dans le chapitre qu'il s'intitule « La meilleure politique ». Il ne donne aucun ordre, c'est un texte tellement général qu'il est fait pour l'Église universelle, mais il renvoie à quelques aspects de la doctrine sociale de l'Église, mais pas simplement en faisant le catéchisme de la doctrine sociale de l'Église, mais en nous donnant quelques points de repère.
C'est une politique au service du bien commun.
Voilà. Comment la politique est au service du bien commun. Et on peut imaginer que le bien commun, c'est ça que, en jargon catholique, nous appelons le règne de Dieu.
Oui, puisque c'est une politique qui est capable de réaliser la fraternité à partir des peuples, des nations qui vivent l'amitié sociale.
Voilà. Donc, je vous invite vivement à aller lire, dans l'encyclique du pape François, tous frères, ce chapitre qui s'appelle « La meilleure politique ». Il nous parle des deux grandes doctrines qui partagent le monde, le populisme d'une part et le libéralisme.
Et le populisme, en fait, oui, il marque ça plutôt comme un frein au service du bien commun. Le populiste, en fait, pour lui, c'est quelqu'un qui se présente comme un sauveur, mais qui n'a pas de dynamique, en fait, naturellement religieuse.
Bon, et de toute façon, dans l'élection à l'Assemblée nationale, il n'y a pas forcément d'aspect religieux, mais ils s'instrumentalisent des éléments religieux, souvent les populistes. Et puis aussi, dans le libéralisme, puis c'est l'autre point qu'il aborde, le libéralisme égale liberté de tout faire. Eh bien, est-ce que le libéralisme, c'est la liberté de tout faire sans s'occuper de ce que ça provoque chez les uns ou chez les autres? Donc, une réflexion sur populaire-populiste, en disant « mais le peuple, c'est très important ».
Oui, mais c'est un danger, en fait, dans nos pays où la grande majorité de la population, elle se reconnaît un peu dans la tradition, dans les symboles, le langage chrétien. Et en fait, les populistes, ils vont s'emparer de ces données-là et les instrumentaliser à leur propre fin.
Voilà. Alors que, en réalité, faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune faite de liens sociaux. Et donc, c'est un processus lent et difficile qui nous amène, justement, à réfléchir au bien commun.
Et on pourrait redire aussi que pour le pape François, au départ, le populisme, ça n'avait pas le même sens. Dans son pays, en Argentine, pour lui, ce n'était pas quelque chose qui était négatif.
Non, c'était le peuple.
Voilà, c'était vraiment le peuple. Donc, avec ce qui se passe et la façon dont ça a progressé aujourd'hui dans le monde, lui, il fustige tous ceux qui utilisent en fait, le christianisme, surtout pour dresser les pauvres contre les pauvres et puis aussi les nations contre les nations.
Bon, et alors par contre, il restaure la notion de peuple. Un peuple vivant, c'est au numéro 160, un peuple vivant, dynamique, ayant un avenir ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses, qui intègre ce qui est différent, qui est capable d'évoluer. C'est ça l'intérêt du peuple. Par contre, il soulève un danger, c'est l'immédiateté. Vous avez une information qui tombe, et puis immédiatement, on vous en parle sans enraciner, sans réfléchir. Donc ça, c'est au numéro 161.
Parce qu'en fait, l'immédiateté, elle est toujours présente. Hein. On veut tout, tout de suite. Hein. Donc le problème de l'immédiateté, c'est que ça n'assure pas d'équité durable. Parce que c'est des choses qui sont un peu faites pour répondre aux besoins des gens, à leurs demandes. Chacun répond chacun à sa demande. Mais on ne tient pas compte du peuple, en fait. Hein,
des besoins fondamentaux et des besoins qui sont au-delà de l'écume des jours. Donc voilà.
Oui, du coup, cette immédiateté, ça, on ne peut pas vaincre les inégalités.
Que suppose voilà. Le développement économique, nous dit le pape, dans l'immédiateté. Il faut réfléchir aux mesures à prendre pour assurer une équité durable. Allez retrouver ça, c'est au numéro 161. Et le grand point pour le pape, c'est la question du travail, parce que c'est le travail qui non seulement permet de gagner sa vie, mais aussi, pour le pape, ça a d'autres vertus.
Et dans le travail, en fait, c'est aussi... Enfin, le travail, c'est chacun peut donner quelque chose. C'est la mission de chacun, ça doit être réparti. Donc chacun a en fait quelque chose à donner. Hein, et la mission en fait du chrétien, en fait, c'est de faire germer en fait les semences que Dieu a mis en chacun de nous.
Chacun fait les semences que Dieu a mis en lui. Donc c'est pas aider les pauvres avec de l'argent comme solution provisoire, c'est permettre à chacun justement d'apporter sa contribution et d'être l'artisan de sa vie sociale.
Oui, et puis ça permet donc ainsi de s'épanouir personnellement.
On n'est pas des robots. Alors l'autre aspect auquel le pape accorde de l'importance, après le populisme dont on vient de dérouler quelques aspects dans son texte, au numéro 163, il aborde la question du libéralisme. Hein, liberté, liberté chérie. Oui, d'accord, liberté chérie, mais la liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. D'où une réflexion importante du pape. En 163, il évoque d'abord que, au lieu de faire des grands catéchismes sur la liberté, eh bien, la réalité est plus importante que l'idée et qu'il n'y a pas de vision romantique de la société ou de l'économie. Et que la charité est très importante et elle réunit deux dimensions. Un processus efficace de transformation d'histoire qui exige que tout soit intégré et la justice sociale et la citoyenneté politique. Justice sociale entre tous, citoyenneté politique permettre à chacun d'être artisan et résultat, un processus de transformation de l'histoire qui exige que tout soit intégré. Et là-dessus, le pape nous rappelle ce qu'est la vraie charité. La vraie charité, eh bien, il reprend l'idée du bon samaritain, il y a l'existence d'une auberge, donc on a besoin de structures, mais de structures pour changer le cours de l'histoire en faveur des pauvres, pour promouvoir non seulement la mystique de la fraternité, on en parle, mais aussi résoudre les problèmes. Et pour cela, le pape appelle à l'éducation.
Toujours l'éducation, effectivement. C'est ça qui va permettre aussi les clés du changement. Voilà, si on éduque, hein, on revient, on a déjà parlé aussi du problème de l'école, en fait. Hein, si on apprend aux enfants ou même aux adultes à réfléchir et à pas forcément être peut-être des petits soldats qui répondent à des ordres, on va faire avancer le monde parce qu'on va avoir une ouverture sur le monde.
Voilà le rôle de l'éducation.
Et ça se fait déjà, mais c'est aussi développé par l'éducation. On peut développer les habitudes solidaires, on peut développer aussi la capacité à penser sa vie. C'est aussi important aussi de développer aussi, d'apprendre à réfléchir, de ne pas oublier bien sûr le côté, la spiritualité de la vie. Et tout ça parce que dès la petite enfance, en fait, hein, c'est de développer aussi la qualité des relations humaines.
Voilà. Et vous aviez noté, là, réagir face aux inégalités, ne pas créer un monde obéissant sans réfléchir. Donc, tout à fait important. Et il le stigmatise dans le libéralisme, la spéculation financière qui poursuit comme objectif principal le gain facile. Donc, sans forme de solidarité et sans confiance réciproque. Donc, il faut des visions économiques qui permettent donc ces mouvements populaires dont vous parliez, hein, qui rassemblent des chômeurs, des travailleurs précaires et informels et beaucoup de personnes qui n'entrent pas dans des grilles préétablies. Donc, tout à fait important d'avoir la part des pauvres.
Oui, en fait, il nous dit que... Parce que souvent, quand il y a des mouvements, quand il y a eu, par exemple, les gilets jaunes, on a beaucoup critiqué ces gilets jaunes. Mais lui, ce que le pape dit dans ça, c'est qu'en fait, parmi ces gens, il y a des semeurs de changement. Donc, et plutôt que de critiquer, de ne pas écouter, mais c'est de transformer ces énergies pour les mettre au service du peuple. Voilà, on va être, et donc on va prendre des décisions vers une politique qui ne va pas être pour les pauvres, mais avec les pauvres.
Voilà.
Donner
ça,
la parole
ça, c'est
à tout
important.
Le monde.
C'est pas parler pour les pauvres, mais donner la parole aux pauvres, et c'est eux qui décident. Et on les soutient. Et c'est important, c'est aussi, eh bien, sur le plan international, on a repéré justement que les multinationales font la loi, alors que peut-être c'est raté. Si le monde international, ça permettait de donner du travail dans les pays les plus pauvres, cela a été vu non pas dans le sens donner du travail, mais dans le sens faire du bénéfice en donnant des salaires plus faibles. Donc, cela a amené à peut-être revoir dans ce pouvoir international comment des lois aussi peuvent régler la jungle internationale. C'est le cas en France, avec des lois qui obligent les entreprises à regarder ce qu'elles provoquent lorsqu'elles donnent des ordres à l'extérieur. Donc, le pape évoque aussi ce pouvoir international pour qu'il y ait la justice en perspective. Je cite au numéro 172, « Le XXIe siècle est le théâtre d'un affaiblissement du pouvoir des États, surtout parce que la dimension économique et financière tend à prédominer sur la politique, alors que la maturation d'institutions internationales devrait être plus forte et devrait permettre l'émergence du droit, l'émergence de l'attention aux autres et aux plus pauvres. Même chose en ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies. Parlons du pouvoir international. C'est vrai que le pape se permet de dire c'est raté après la crise de 2008. Je me permets de répéter, je lis le texte au numéro 170, que la crise était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie attentive aux principes éthiques, pour réguler l'activité financière spéculative et la richesse fictive. Donc, il souligne aussi, c'est au numéro 171, que donner à chacun ce qui lui revient signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques. Et le pape rappelle que le panorama mondial nous présente aujourd'hui beaucoup de faux droits, beaucoup de grands secteurs démunis. Donc, il souligne que la réforme des Nations Unies suppose des limites juridiques précises pour que cette autorité ne soit pas cooptée par quelques pays ou bloquée par quelques pays. On le voit en ce moment avec les affaires internationales, notamment concernant l'Ukraine. Et il pose la question pour empêcher des impositions culturelles ou la violation de libertés fondamentales des nations les plus faibles. Là aussi, l'objectif des relations internationales, permettre aux gens de se parler, mais quand même aussi assurer l'incontestable état de droit et le recours intarissable à la négociation, aux bons offices, à l'arbitrage, pour que ce soit cela la vraie norme juridique fondamentale. Et il conclut ce passage en évoquant « Il faut du courage et de la générosité pour établir librement des objectifs communs et assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales. » Ça veut dire qu'on ne craint pas pour sa réélection. Donc, une réflexion que je vous propose de retrouver dans Fratelli Tutti, au passage concernant la meilleure politique. Bonne semaine à tous, au revoir.